Midi 30, 13h, le journal de la mi-journée sur Europe 1. Aujourd'hui, c'est avec vous, Carole Ferry. Bonjour Carole.
Bonjour Marlène, bonjour à tous.
C'était un enfant qui ne mangeait plus, qui ne parlait plus, qui ne bougeait plus, qui était inerte, qui était dans un fauteuil roulant.
C'est après ces 8 années de calvaire que le petit Nolan, 10 ans, est décédé. Hier, il faisait partie des 15 enfants intoxiqués par des steaks contaminés par la bactérie Escherichia coli dans les Hauts-de-France. Victor Dolande nous racontera aussi la réaction peu empathique du fournisseur qui avait vendu ses steaks. Il fait chaud aujourd'hui, bonne nouvelle pour ce dimanche, beaucoup moins pour nos nappes phréatiques. 20 départements sont en crise totale en raison de la sécheresse.
Aujourd'hui, une interdiction totale s'est vouée à la perte sèche de tout ce qui est en culture.
Dans ce journal, nous entendrons Brice Hortefeux qui défendait ce matin Patrick Balkany dans le grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos. Nous partirons également à Fréjus. Le discours de Marine Le Pen est prévu à 15h. Reportage avec les militants du Rassemblement National. Et puis dans le journal des sports, nous reviendrons sur ce grand écart des émotions hier au Parc des Princes. Neymar hué pour avoir failli partir, puis pardonné après son incroyable but face à Strasbourg.
Avant, il faisait n'importe quoi, il a voulu quitter le club, mais non, je le préfère maintenant. Avec sa retournette acrobatique.
Et cette victoire des Bleus au Mondial de basket, les Français ont décroché la médaille de bronze à Pékin. Enfin, la météo, c'est une belle journée, pleine de soleil et de forte chaleur, nous dira Valérie Darmon.
Europe 1.
Il avait 10 ans. Nolan est décédé hier des suites de son très lourd handicap. Il fait partie des 15 enfants qui avaient mangé des steaks hachés vendus par Lidl en 2011 dans les Hauts-de-France. Des steaks contaminés par la bactérie Escherichia coli. Nolan avait alors 23 mois. Le début d'un très long calvaire, Victor Dolande.
Oui, après cette intoxication, Nolan a vécu 8 ans de martyr, pour reprendre les mots de l'avocate de la famille, maître Florence Rowe. La bactérie a causé de très graves dommages neurologiques. Nolan ne pouvait plus marcher, ni parler, ni s'alimenter. Il était dans un fauteuil roulant, ses os se cassaient très facilement. Après cette mort, quelle est la suite de la procédure toujours en cours? Pour ne pas avoir effectué des contrôles sur les steaks hachés produits par son entreprise, Guy Lamorlette a été condamné en 2017 à 3 ans de prison, dont 2 fermes. Un jugement confirmé en appel en février dernier, mais ce chef d'entreprise s'est ensuite pourvu en cassation. Aujourd'hui, l'avocate de la famille de Nolan, maître Florence Rowe, réclame un peu de décence de la part du responsable.
Maintenant que Nolan est parti, on pourrait espérer qu'il fasse preuve d'un tout petit peu de décence. Et en effet, il serait peut-être temps d'arrêter les procédures et de prendre en considération la condamnation qui a été prononcée et d'assumer enfin, je dis bien enfin, ses responsabilités.
En 2011, 14 autres enfants ont été intoxiqués en mangeant ces steaks hachés. Si Nolan était de loin le plus lourdement atteint, certains enfants ont encore aujourd'hui de graves séquelles avec notamment d'importantes insuffisances rénales.
Merci Victor Dolande. Nous le verrons à la fin de ce journal, c'est un très beau dimanche ensoleillé qui nous attend. On ne va pas se priver pour en profiter. Mais ces chaleurs sont aussi responsables de la très forte sécheresse qui touche actuellement le pays. 87 départements sont en alerte sécheresse. Une vingtaine sont même en crise absolue et n'ont plus du tout le droit d'arroser. Un cauchemar pour les agriculteurs, Marion Gauthier.
Oui, car même fin septembre, même en altitude, l'eau manque. Sandrine Barbeau est maraîchère dans le Cantal. Pour la première fois depuis 20 ans, elle ne voit plus de rosée sur ses légumes le matin. L'air est trop sec. Avec en plus l'interdiction d'arroser, son moral est au plus bas.
Aujourd'hui, une interdiction totale s'est vouée à la perte sèche de tout ce qui est en culture. Et c'est 3-4 mois de vente de légumes qui sont perdus.
300 km plus au nord, dans les plaines de l'Indre, Emmanuel Bourgi a bien peur de perdre 50% de sa récolte de céréales. Il ne peut plus rien planter, les sols sont trop arides à tel point que l'eau ne s'infiltre plus. Impossible de travailler.
Il y a eu très peu de pluie pendant l'hiver, donc il n'y a pas eu de rechargement des nappes, mais pas plus non plus des sols. On est presque à un an de sécheresse maintenant.
L'eau se fait rare, raison de plus pour prévoir des retenues, conserver ce précieux liquide et le redistribuer dans les temps difficiles. C'est en tout cas ce que défend Julien Tufféry, éleveur sur les hauts plateaux de Lozère.
Il est très important de trouver des solutions pour augmenter l'autonomie d'exploitation et ça passe nécessairement par la création de retenues collinaires qui permettent de capter cette fameuse eau qui tombe en abondance du ciel pendant l'hiver et le printemps, pour l'avoir pendant l'été.
Les retenues collinaires, ce sont ces mini-barrages à flanc de colline, des stocks d'eau qui peuvent être utilisés pendant la sécheresse. Pour Julien Tufféry, c'est donc la seule solution. Il l'assume, même s'il sait que de nombreuses associations écologistes s'y opposent.
Merci pour ce tour d'horizon, Marion Gauthier. Brice Hortefeux était ce matin l'invité du grand rendez-vous européen CNews Les Échos. Le député européen LR a bien entendu réagi à l'incarcération hier de Patrick Balkany, condamné à 4 ans de prison ferme pour fraude fiscale.
Moi, je ne peux pas m'empêcher quand même de m'interroger sur la décision qui a été prise, une incarcération immédiate, comme s'il allait partir dans la foulée au Guatemala. C'est la première fois qu'une personnalité publique est incarcérée pour des faits de fraude fiscale. Je n'ai pas le souvenir, par exemple, que M. Dieudonné ait été placé sous mandat de dépôt. Je n'ai pas le souvenir que M. Cahuzac ait été placé sous le mandat de dépôt. Et on doit se poser la question. Qu'attend-on de la justice ? On attend de la justice qu'elle soit juste, pas exemplaire. Exemplaire, ça veut dire qu'il y a une discrimination en fonction de l'individu.
Brice Hortefeux, invité ce matin du grand rendez-vous Europe 1 CNews, Les Échos. C'est à 15h que la présidente du Rassemblement National, Marine Le Pen, s'adressera à ses militants depuis Fréjus, où se tient l'université des partis. Dans le viseur pour Marine Le Pen, la présidentielle de 2022. Les militants, eux, tentent de se mettre en ordre de marche pour les municipales de mars prochain, comme a pu le constater sur place Claudia Beltrame.
Nous avons les municipales en ligne de mire.
La rentrée politique est aussi l'occasion pour les militants de se lancer dans les municipales. Les jeunes RN savent qu'ils ont un rôle à jouer et sont prêts à s'engager, comme Grégoire Lallou.
On évoque évidemment les municipales puisque certains seront ou tête de liste ou alors colistiers. Ce sera par exemple mon cas à Metz. J'ai non seulement envie, j'en ai le devoir, ça a été rappelé par les différentes interventions. On veut défendre nos idées, voilà, nos idées et surtout notre pays. C'est avant tout ça notre principal carburant. Et c'est pas toujours facile, mais c'est une nécessité.
Au Rassemblement National, les jeunes militants peuvent rapidement accéder aux responsabilités. Exemple, à Fréjus même où David Racheline est élu maire à 26 ans. De quoi motiver Dorian Munoz, 27 ans, est d'ores et déjà investi pour les municipales à la Seyne-sur-Mer dans le Var.
C'est une grosse campagne qui m'attend et je suis au courant. Mais en même temps, je suis prêt, j'ai une équipe, je suis ça.
Pour le RN, les municipales sont une marche vers la présidentielle et le militant Julien Franquet l'a bien en tête.
Gagner des mairies aujourd'hui, gagner des départements demain, ensuite gagner des régions pour ensuite accéder et aider Marine Le Pen à conquérir l'Elysée.
Pour y parvenir, le RN mise sur un ancrage territorial en conservant ses mairies et en faisant basculer les petites communes alentour. Fréjus, Claudia Bertrame, Europe 1.
À suivre, la cérémonie d'hommage aux victimes de la Minerve, ce sous-marin disparu il y a un demi-siècle avec 52 marins à bord et ce témoignage de la veuve d'un des marins.
Europe 1.
Midi 39, tout juste la suite du journal sur Europe 1, Carole Ferry.
Plus d'un demi-siècle après, Toulon vit ce week-end au rythme des cérémonies d'hommage aux victimes de la Minerve, ce sous-marin disparu en mer en 1968 avec 52 marins à bord, parmi eux le mari de Thérèse Sherman-Descamps.
J'ai du mal à imaginer que je vais être face à la Minerve, face à mon mari. Ça va être une partie dure, c'est un moment très dur, très très dur. Mais savoir que tous ces hommes sont là, leur esprit, parce que cette Minerve qui est en plusieurs morceaux, c'est épouvantable. Mais je suis apaisée malgré tout. Je suis apaisée de savoir, de l'avoir localisé, de savoir où on peut se recueillir, où ils ont leur sépulture, comme tout un chacun. À nous maintenant de faire notre chemin, maintenant de pouvoir continuer avec... se disant, bon, nous savons où ils sont, puis nous continuons notre vie avec notre être cher dans notre cœur, bien entendu, comme on l'a fait pendant 50 ans. Ça, on les a jamais oubliés. Moi, j'ai jamais oublié mon mari, le père de mes enfants. Ça a été pendant 50 ans de bataille. Maintenant, je vais continuer à vivre apaisé.
Un témoignage recueilli pour Europe 1 par Frédéric Michel. En Tunisie, suspense aujourd'hui pour le premier tour de la présidentielle. Un scrutin très ouvert, 26 candidats en lice. L'un des favoris est un publicitaire poursuivi pour blanchiment d'argent et évasion fiscale. Il a été incarcéré 10 jours avant le début de la campagne. Il a annoncé cette semaine entamer une grève de la faim. 7 millions d'électeurs sont appelés à voter aujourd'hui. Des Tunisiens rongés par la crise sociale dans un pays sous perfusion du FMI, le Fonds monétaire international. La production de pétrole réduite de moitié en Arabie Saoudite après une attaque de drones revendiquée par les rebelles yéménites. L'Iran estime insensées les accusations américaines. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo avait tenu la République islamique comme responsable de cette attaque. Pour terminer, je vous propose un job de rêve. Sur le CV, il faut être doué en maths, français et histoire géo. Ne pas avoir peur d'une élève de CM2. Et vous avez alors le passeport idéal pour passer un an aux Maldives, tout frais payé sur un yacht. Intitulé du poste, prof à domicile, le reportage de notre correspondant Jean-Luc Boujon.
Et le rêve commence dès la lecture de la petite annonce.
Nous recherchons un ou une professeure pour donner des cours de français, histoire, géo et mathématiques, 3 heures par jour, à une élève de CM2 à bord d'un yacht Sainte-Étoile aux Maldives. Le reste du temps, vous profiterez de plongées sous-marines, surf, snorkeling ou détente au soleil.
Incroyable mais vrai, en plus vous serez nourri, logé, blanchi, vous toucherez même un salaire de 400 euros par mois, alors quand même il faut un bon niveau général pour être capable de dispenser les cours, explique Emmanuel Greffe de la société lyonnaise A-Prof.
On recherche quand même quelqu'un de très sérieux, qui soit capable de suivre la petite fille au niveau du programme de CM2 de la même manière que si elle était dans une école primaire française.
D'une, la jeune élève a 10 ans, en fait il s'agit de la fille des gérants du yacht qui propose des excursions au milieu des atolls des Maldives, et sa professeure actuelle Maëva confirme, c'est bien un job de rêve.
Quelle expérience de vivre vraiment sur un yacht aux Maldives, c'est vraiment génial. J'ai pu découvrir le surf, le snorkeling, la plongée, je plonge à peu près tous les jours. On voit des requins baleines, on voit des raies-mantas, on voit toutes sortes de poissons, voilà, c'est juste magnifique.
Alors pour ceux que ça intéresse, et ben les inscriptions c'est jusqu'au 31 décembre et le poste est à pourvoir en novembre 2020.
Jean-Luc Boujon.
Le journal des sports.
Bonjour Marie-Guida.
Bonjour.
Alors on commence avec le basket. La France arrache la médaille de bronze et termine donc 3e de la Coupe du Monde en Chine.
Oui, c'est le terme, effectivement, arraché. Longtemps dominé, les Bleus ont finalement renversé la vapeur et prennent la 3e place comme en 2014. Christophe Lamar, vous avez suivi la rencontre ce matin. On a bien cru que les Français allaient passer au travers, mais cette fois, ils n'ont pas craqué.
Oui, juste avant la rencontre, le sélectionneur Vincent Collet avait demandé du caractère et du courage. Une médaille de bronze, cela ne se galvote pas, disait-il. Et pourtant, pendant 25 minutes, les Bleus ont donné l'impression d'avoir les pieds bien plantés, profonds dans le parquet de ce Sport Center de Pékin. Pas de mouvement, pas d'idée, pas d'adresse. Les Français étaient perdus et surtout bousculés par des Australiens qui avaient décidé d'imposer un défi physique. Les coéquipiers de Rudy Gobert regardaient les ballons passer et s'engouffrer dans le cercle. 15 points d'écart dans le troisième quart-temps. L'Australie jouait le coude posé sur la portière. Alors à quoi tient un match? Eh bien à des détails. Un panier à 3 points qui rentre enfin. Andrew Albici sonne la révolte. Nicolas Batum se réveille et les Bleus avec lui. Nando Docolo et Evan Fournier, 35 points à eux deux, retrouvent leur basket et permettent à la France de décrocher une deuxième médaille de bronze consécutive en Coupe du Monde. De quoi penser aux Jeux de Tokyo avec un petit peu d'optimisme.
Merci Christophe Lamar du service des sports d'Europe 1.
Des joueurs heureux et dans le public, un invité de marque, Tony Parker.
Oui, l'ancien meneur de l'équipe de France aujourd'hui à la retraite a salué la performance des Français. L'héritage est entre de bonnes mains, Tony Parker.
Je suis vraiment content pour cette équipe. C'est une médaille et franchement, je suis fier d'eux. Ils ont vraiment bien représenté la France sur cette compétition. Et on a envie de voir une équipe qui a envie de bien représenter notre pays. Et je pense qu'on a les joueurs qu'il faut. Et pour moi, c'était important de les soutenir et de terminer en beauté comme ça. Ça montre le caractère de l'équipe de revenir à moins 15.
Tony Parker au micro de Canal Plus Sport.
Retour sur le football, la 5e journée de Ligue 1. C'est un peu l'image de la soirée d'hier, le retour de Neymar au Parc des Princes.
Oui, le Brésilien n'avait plus foulé la pelouse du Parc des Princes depuis le 4 mai dernier. Il a offert la victoire au PSG grâce à un fantastique retourné acrobatique. Alors, est-ce que l'adage but marqué, Neymar pardonné fonctionne? Pas tout à fait pour les supporters parisiens.
Il a manqué un peu de respect envers le club. Je pense que l'institution est plus forte que tout.
Très juste par rapport à tout ce qu'il nous a fait. Lui-même nous a insultés, donc forcément, on lui a rendu l'appareil. Tant qu'il ne sera pas parti, on ne lui pardonnera pas.
C'est un petit peu compliqué de juger parce qu'en même temps, il a craché sur le club et manqué de respect en quelque sorte au club et à son public. Et en même temps, on sait qu'on a affaire à un joueur stratosphérique. Il est compliqué d'accueillir à nouveau ce joueur de la meilleure des façons. Et en même temps, il fait partie d'une caste de joueurs intouchables. Quoi.
Et je pense qu'il va nous rendre tous schizophrènes.
Les supporters du Paris Saint-Germain au micro de Julien Froment.
Alors, 4 matchs étaient au programme hier soir. Quels sont les résultats, Marie?
Eh bien, Bordeaux s'est imposé 2-0 face à Metz, 0-0 entre Brest et Rennes, même score 0-0 entre Dijon et Nîmes, et Montpellier a battu Nice 2-1. Et pour être tout à fait complète, voici le programme de la journée. À 15h, Nantes reçoit Reims, à 17h, Saint-Etienne-Toulouse, et à 21h, Monaco-Marseille, un match à suivre sur Europe 1 à partir de 20h.
Et puis, on a du rugby aujourd'hui également, puisque c'est le championnat du top 14.
Et ça ne va vraiment pas mieux pour le Stade français. Les Parisiens se sont lourdement inclinés 52-3 sur la pelouse de Bordeaux. Pau s'est imposé sur le terrain de Clermont et à 16h50, ce sera le grand match entre le rugby club de Tournon et le Racing Métro 92.
Merci Marie-Guida. Un œil maintenant sur la météo.
Augmentez votre confort thermique et acoustique pour longtemps avec les fenêtres ArcaDB. Plus d'infos sur arcadb.com. ArcaDB vous présente la météo.
Et c'est a priori un dimanche de rêve, Valérie Darmon.
Absolument, Carole, et les maximales atteignent cet après-midi des valeurs estivales avec 18 à 23 degrés sur les côtes de la Manche, 23 à 28 de l'intérieur de la Bretagne au bassin parisien jusqu'aux frontières du Nord, 28 à 33 au sud de la Seine et jusqu'à localement 34 en Charente. Tout cela à vos thermomètres en ressenti, bien sûr. Les températures sont beaucoup plus élevées. Pour le ciel, c'est plus instable sur le sud à cause des nuages venus de la péninsule ibérique, surtout du sud de l'Aquitaine vers l'Occitanie jusque vers la Provence. Quelques ondées sont attendues dans la journée, plus fréquentes sur les régions pyrénéennes où elles prennent un caractère orageux cet après-midi à cause de la chaleur. Chaleur et soleil qui vont durer toute la semaine, même si les températures accusent une petite baisse en milieu de semaine.
Merci Valérie Darmon. Dans un instant, je recevrai Julien Lassalle. Il est secrétaire général de l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement à la Banque de France. Nous allons voir comment nos habitudes vont changer dans nos achats sur Internet.
Il est midi 49, c'est le journal de la mi-journée sur Europe 1. Place maintenant à votre invité, Carole Ferry.
Alors c'est un terme très barbare, DSP2. Mais ne partez pas, car vous risquez de beaucoup l'entendre, cet acronyme, dans les semaines qui viennent. Et nous allons tenter de comprendre pourquoi avec notre invité. En fait, la DSP2, c'est une nouvelle directive européenne qui vise à mieux nous protéger quand nous achetons sur Internet. Aujourd'hui, quand vous achetez un billet de train, un vêtement, on envoie un code par SMS et vous devez le rentrer pour valider votre achat. Bientôt, ce système n'existera plus. On doit progressivement apprendre à changer nos habitudes. On va essayer de comprendre avec vous, Julien Lassalle. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargé de la sécurité des transactions financières à la Banque de France. Alors, très concrètement, qu'est-ce qui va changer ?
Alors, très concrètement, le mode de sécurisation par envoi d'un code par SMS va évoluer pour mettre en place un deuxième facteur d'authentification lors d'un paiement sur Internet. Et en pratique, pour la majorité des Français, on utilisera de moins en moins le SMS et les Français seront invités à valider leurs transactions lors d'un paiement par validation via leur application de banque en ligne. Donc au moment d'un paiement, la page de paiement s'ouvrira, on vous demandera de consulter votre portable, vous allez avoir votre application de banque qui va vous envoyer une notification et pour payer, vous aurez besoin de vous authentifier sur votre mobile soit au moyen d'une empreinte biométrique, soit au moyen d'un code personnel.
Les empreintes biométriques, ça veut dire que ce sont par exemple nos empreintes digitales. Il y a quoi comme empreinte biométrique justement ?
Alors, ce sera principalement les empreintes qui sont proposées par les fabricants de téléphones. Donc, soit l'empreinte digitale d'un pouce, d'un doigt, soit une reconnaissance faciale, une reconnaissance rétinienne, tout ce qu'on peut trouver sur les téléphones aujourd'hui, selon les mobiles.
Et ça, on est sûr que ça protège mieux. C'est quoi le problème ? C'est que les SMS, ça ne protège pas assez ?
Alors, les SMS apportent déjà une première protection et c'est ce qui a permis de faire baisser de façon continue la fraude sur les paiements sur Internet depuis 7 ans. Donc, c'est une solution qui est déjà remarquable en termes de sécurité. La réglementation européenne a décidé d'aller plus loin, d'être encore plus efficace face à la fraude. Et donc, c'est pour cela qu'on a aujourd'hui cette migration vers des solutions encore plus sécurisées. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut s'inquiéter. Le paiement par SMS est déjà une forme de sécurisation très efficace.
Mais normalement, ça aurait dû s'arrêter dès hier. On n'était pas prêt, la France, hein, on n'est pas en règle. Alors, on nous a laissé un petit délai. Comment ça se fait qu'on ne soit pas prêt ? Parce que la Société Générale a déjà commencé. Certaines banques s'y sont mises. Hein, la BNP, elles ont déjà en fait leur banque en ligne qui effectivement propose cette sécurité supplémentaire. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ce délai supplémentaire ?
Alors, en pratique, la réglementation a été arrêtée en mars de l'année dernière et les établissements avaient 18 mois pour se préparer. Mais pendant cette période de 18 mois, il y a eu un certain nombre de clarifications qui étaient nécessaires sur les choix technologiques qui seraient valides ou non au niveau de l'autorité bancaire européenne. Ça a raccourci le délai de préparation des établissements et aujourd'hui, on est dans une situation où les solutions existent, mais il faut laisser le temps aux établissements de les déployer auprès de leur clientèle.
Et donc, ce n'est pas de leur faute, c'est parce que...
Non, vraiment, il y a eu... déjà, le délai de 18 mois était relativement court.
Est-ce que les banques n'ont pas un peu traîné des pieds, quand même ?
Non, les banques n'ont pas traîné des pieds, mais dans la relation avec leurs consommateurs, les habitudes de paiement sont très, très lentes à faire évoluer. Il a fallu, par exemple, près de 10 ans au sans-contact pour s'imposer. Pouvoir changer en 18 mois les habitudes de validation des transactions sur Internet, ce n'est pas juste l'affaire des banques, c'est aussi un problème pour les consommateurs. Et donc, ça ne peut pas se décréter sur des délais aussi courts. On a besoin d'une marge supplémentaire pour permettre à tout ça de se passer dans de bonnes conditions.
Alors, on l'a bien compris, pour payer désormais sur Internet, il va falloir obligatoirement avoir l'application bancaire sur notre téléphone portable. Si on n'a pas de smartphone, Ou bien qu'on en a un, mais qu'on n'a pas du tout envie de télécharger l'application de notre banque dessus, qu'est-ce qui va se passer? Comment on peut payer après sur Internet?
Alors, on a aujourd'hui, d'après une étude de la Fédération bancaire française, à peu près 60% des utilisateurs qui utilisent leur application de banque en ligne de façon régulière.
Ouais, enfin, ça en laisse beaucoup, donc ils ne le font pas.
Ça en laisse beaucoup sur, sur la route. Alors, la solution par mobile, c'est par smartphone et application, c'est la solution privilégiée. Il n'empêche que les banques doivent proposer des solutions d'authentification pour toutes leurs catégories d'utilisateurs. Et donc, pour certains d'entre eux, par exemple, utiliser encore des codes transmis par SMS et au moment où on saisit le code, on rajoute un petit code personnel dans la saisie qui permet de montrer qu'on est le titulaire du compte, c'est aussi une façon de sécuriser. Donc, on peut continuer
ça,
à faire du SMS.
C'est un code qu'on recevra, par exemple, par courrier postal.
Par exemple, oui.
C'est un peu comme le code carte bleue, mais ce sera notre code paiement sur Internet.
Exactement, c'est une solution qui serait tout à fait acceptable par rapport à la réglementation. Donc, on a un petit code à 5 chiffres, disons, pour ne pas le confondre avec le code de la carte, et on l'adjoint au code qu'on reçoit par SMS, et là, on a une solution qui est compatible parce qu'elle repose sur deux facteurs d'authentification.
Et alors, pour ceux justement qui ont encore peur d'avoir leur banque sur leur téléphone portable, est-ce qu'il y a un risque à télécharger cette application bancaire?
Non, il n'y a absolument aucun risque à télécharger les applications de banque en ligne. C'est même généralement on le constate dans les enquêtes qui sont faites par les banques, les clients qui ont des solutions des applications bancaires en ligne sur mobile ont tendance à consulter plus leur compte que ceux qui utilisent seulement leur ordinateur. Donc ça permet aussi aux clients d'être plus vigilants par rapport à ce qui se passe sur leur compte, de recevoir des notifications en temps réel.
Plus facilement si on nous a prélevé effectivement des sous qui n'auraient pas dû être prélevés,
exactement.
Un achat frauduleux justement par exemple.
On est globalement mieux informé quand on utilise sa banque mobile.
Et alors, plus globalement, est-ce que c'est encore risqué, justement, aujourd'hui, d'acheter sur Internet? On voit bien qu'il va y avoir donc une sécurité supplémentaire, mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut essayer de donner ce qu'il en est de la fraude sur Internet?
Alors, aujourd'hui, on n'a pas d'inquiétude. Le paiement sur Internet, c'est un paiement qui est bien sécurisé. Alors, on n'arrivera jamais au niveau de sécurisation d'un paiement au point de vente, parce qu'on n'a pas le payeur en face de soi, on n'a pas un terminal certifié qui nous permet de valider la puce de la carte, de valider un code confidentiel. Mais malgré tout, les technologies qu'on a déployées ces dernières années ont permis d'atteindre des niveaux très très satisfaisants. En 2011, on avait à peu près 1 euro de fraude pour 300 euros de transactions sur Internet. Aujourd'hui, le ratio est descendu à 1 euro pour 600 euros de transactions sur Internet. Et c'est une tendance dont on compte bien qu'elle se poursuive au-delà des années à venir.
Et avec justement ces nouvelles règles. Alors on le voit bien avec le paiement en ligne, avec le paiement sans contact, on utilise de plus en plus notre carte bleue. Est-ce qu'on ne va pas finir par voir disparaître nos billets, nos pièces, bref l'argent liquide?
Alors aujourd'hui, ce qu'on constate au niveau de l'eurosystème et de la Banque de France, c'est qu'on a toujours une demande en billets, ce qu'on appelle une circulation des espèces, qui continue à augmenter, même si le rythme se ralentit un petit peu. Et on n'est absolument pas dans la situation de pays scandinaves, comme la Suède, par exemple, où on a effectivement le cash qui est une sorte d'espèce en voie de disparition. Aujourd'hui, on a encore les deux tiers des paiements faits par les Français au point de vente qui sont des paiements réalisés en espèces. C'est la preuve que les espèces ont encore des belles années, des belles décennies sans doute devant.
Et il paraît qu'il y a encore beaucoup de Français qui continuent à cacher leur argent liquide sous le matelas. C'est vrai, ça?
Ça, je serais incapable de répondre à cette question, mais c'est vrai que la circulation, la croissance de la circulation, elle résulte d'un usage pour les transactions, mais aussi un petit peu de thésaurisation, sans doute, y compris de la circulation en dehors de la zone euro.
Merci Julien Lassalle, vous êtes secrétaire général de l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement à la Banque de France. Dans quelques minutes, nous ouvrirons les carnets du monde avec vous, Sophie Larmoyer, bonjour. Alors, vous nous emmenez où, Sophie, aujourd'hui?
Bonjour Carole, on sera notamment en Tunisie. Vous savez que les Tunisiens votent aujourd'hui pour se choisir un président. Dans quel contexte? Eh bien plutôt très morose pour l'économie et donc du côté du portefeuille, et plutôt positif pour ce qui est des progrès démocratiques. On va écouter les Tunisiens.
A tout de suite Sophie.
Oui, les carnets du monde, c'est jusqu'à 14h. Vous êtes bien sur Europe 1. Bon dimanche à tous.